Bonjour à toutes et à tous. Nous allons lire nous allons ouvrir nos Bibles pour lire deux versets, particulièrement de l'Épître aux Corinthiens, le premier Épître aux Corinthiens. Nous allons lire le chapitre 6, versets 19 et 20. Le premier Épître aux Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20. Nous avons vu que nous sommes au pied de Jésus pour entendre sa parole, pour entendre ce qu'il dit. Le plus difficile, c'est parfois d'oublier les choses que nous avons apprises toute notre vie. Et on apprend beaucoup de choses dans le monde, et parfois c'est où il faut déapprendre ce que nous avons appris, puisque le Seigneur, il peut nous parler. Et on va lire ce passage, 1 Corinthiens 6, 19, 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? C'est vain, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, l'apôtre Paul, il pose une question. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? C'est quelque chose que, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend dans ce monde. Le monde nous apprend que c'est votre corps. Vous avez le droit de faire ce que vous avez envie de faire avec votre corps. Ce que nous entendons souvent, même récemment, ça parlait des femmes, ils ont le droit de faire ce qu'ils ont envie de faire avec leur corps. Et ce n'est pas uniquement les femmes, les hommes, les enfants et tout le monde. Vous savez, j'ai une petite anecdote. Il y avait un homme qui s'appelle Olav Olofsson. Il était un citoyen libre de la Suède. Mais il avait du mal à trouver de l'argent pour vivre. C'est-à-dire, il était dans la misère. Ainsi, en désespoir de cause, il a vendu son corps pour la recherche médicale à l'Institut Karolinska de Stockholm en 1910. Un an plus tard, il a hérité d'une grande fortune alors qu'il a essayé de se racheter. Mais l'Institut a refusé de lui vendre ses droits sur son propre corps. Et dans un procès, ils en ont conservé la possession. L'Institut a même perçu des dommages et intérêts de sa part parce qu'il s'est fait extraire dedans sans permission. Quel malheur! Il a vendu son propre corps à l'Institut pour la recherche médicale, mais quand il veut racheter son propre corps, il n'a pas pu racheter. L'Institut, il a refusé de vendre son corps. Et même il devrait payer parce qu'il avait extrait deux de ses dents sans leur permission. Et parfois, ce que nous, on pense faire de notre corps, n'est-ce pas? On pense qu'on a la liberté de faire ce qu'on a envie de faire. Et l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Est-ce que on comprend ce passage, ce verset? Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Afin de mieux comprendre le contexte de ces deux versets que nous venons de lire, nous devrions lire les quelques versets précédents pour savoir à qui et pourquoi l'apôtre Paul l'a dit. Regardez à partir du verset 12, on va lire jusqu'à 18. Donc nous sommes en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Le verset 13, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres, mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Verset 15, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Les possibilités d'indulgence sexuelle dans notre société sont énormes. Ce qui était autrefois pratiqué secrètement et considéré comme honteux est maintenant ouvertement accepté. Cependant, il n'y a rien d'unique dans l'indulgence sexuelle. La ville grecque de Corinthe était dominée par une colline de 1000 mètres de haut, surmontée d'un immense temple dédié à la déesse Aphrodite, qui abritait 1000 prostituées sacrées. Je vous dis ça pour, puisqu'on peut comprendre le contexte quand Paul est là, écrit ces versets. Dans un tel terrain hostile, un autre type de temple avait vu le jour à Corinthe. Non pas un bâtiment physique, mais un groupe de personnes dans lesquelles le seul vrai Dieu vivait par son esprit. L'Église de Christ. Écrivant à ces chrétiens, Paul l'exhorte à ne pas retomber dans leur ancien style de vie. Nous pouvons apprendre trois vérités vitales et trois applications pour garder notre corps pur. L'idée dominante à Corinthe était que tout était permis de sorte que l'on pouvait faire ce que l'on voulait avec son propre corps. Paul explique qu'une telle inférence est fausse. Dieu est vivement préoccupé par ce que nous faisons de notre corps. Dieu est vivement préoccupé par ce que nous faisons de notre corps. Ils n'ont pas été conçus pour l'immoralité sexuelle, mais pour le Seigneur. Vivre la vie chrétienne est en fait la vie de l'esprit vécue à travers de nos corps. Quand on parle de corps, bien sûr, on peut parler de la façon que nous habillons, notre habit aussi. Comment nous comportons à la fin de sa vie sur terre, plutôt que de rejeter le corps, Christ a assumé une existence spirituelle, Jésus a été ressuscité. Ainsi, notre corps aussi a une destinée et un but éternel dans la résurrection. Le chrétien ne se concentre pas sur ses droits, mais sur ses responsabilités. Si Dieu nous a donné un corps, qu'est-ce que nous faisons avec ce corps, de nos corps? Les Corinthiens croyaient que l'esprit d'une personne était un niveau différent de celui du corps, de sorte que les actes de la chair n'affectent pas le domaine spirituel. Il avait tort, et nous le sommes aussi si nous nous en tenons à cette idée. Paul rappelle aux Corinthiens que leurs corps sont membres de Christ lui-même. Dans le verset 15, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ?» Il parle de l'Église. Nous, nous sommes membres de son corps. Nos corps, nous, quand on dit nous, avec nos corps, nous sommes membres du corps de Christ. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Le mot s'attache au verset 17, signifie littéralement coller ensemble, être unis. Il y a une connotation avec quand Dieu créa Adam et Ève, Dieu l'a prévu qu'ils s'attachent avec l'autre. Plutôt que d'être libre pour un chrétien de faire ce qu'il ou elle veut avec le corps, Paul rappelle aux Corinthiens et à nous que nous n'appartenons plus à nous-mêmes, mais à Dieu qui a un plan différent pour notre corps. Le langage est celui du marché et du marché aux esclaves en particulier. Quand Paul écrivait ces choses, il y avait des esclaves dans son temps. Et un esclave, il devrait être attaché à son maître. Il n'avait pas le droit de faire ce qu'il avait envie de faire. De nos jours, nous entendons plus en plus dire que notre corps nous appartient et que nous pouvons faire tout ce que nous décidons de faire avec notre corps. Et cela, surtout dans le cas des femmes, pour approuver les actes de péché les plus atroces. En effet, la Bible contredit une telle prémisse, bien que pour les hommes et autant pour les femmes. En tant que chrétiens, nous n'avons pas le droit de faire ce que nous voulons de notre corps. Nous ne nous sommes pas nous-mêmes, mais à Dieu. Nulle part cela dit plus clairement que dans notre texte et nous avons devant nous ce matin. Et nos corps sont le temple de Saint-Esprit, dans lequel l'Esprit demeure. Écrit ailleurs de l'Église en général, en 1 Corinthiens, je vais lire ces passages pour vous, en 1 Corinthiens 3, 16 et 17, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Mais normalement, nous devrions connaître ces choses. Mais Paul s'étonne. Il dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et ce que vous êtes. Rappelez-vous ce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il a vu que le temple de Dieu était pris par les marchands, par les commerçants, il a chassé du temple de son père. Il a chassé. Et ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire avec notre corps? Et encore à 2 Corinthiens 6, 16 à 18, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Hier matin avec les frères, nous avons vu les idoles. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Je pense que quand l'apôtre Paul il a écrit aux Corinthiens, il avait dans sa pensée, dans ses pensées, le passage que se trouve dans l'Ancien Testament, quand Dieu il a pris son peuple d'Égypte, il a séparé, il a sanctifié, il a dit que voilà, vous construirez un sanctuaire pour moi, j'habiterai parmi vous et vous serez séparés au milieu d'eux, et vous serez pour moi les fils et les filles, et je serai votre père. Dieu veut une séparation de ce monde pour ses enfants. Et on n'a pas besoin d'apprendre ce que le monde il apprend. On n'a pas besoin d'apprendre ce que le monde il veut nous apprendre. Mais nous devrions être séparés et instruits par la parole de Dieu. Nous devrions écouter ce que la parole de Dieu nous instruit, et pas le monde. En Éphésiens 2, 21-22, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant le pierre angulaire. Et nous sommes édifiés sur la pierre angulaire, sur le fondement des apôtres, sur la doctrine des apôtres et des prophètes. Le verset 21, « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, nous sommes partis de cet édifice, nous sommes partis de ce corps de Christ. Donc, nous sommes des membres du corps de Christ. Et encore une fois, dans ce passage, l'apôtre Paul, quand le peuple d'Israël était en train de construire le tabernacle, il avait en lui tout édifice, tout l'édifice bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur, où Dieu peut habiter. Donc, en tant que chrétien séparé individuellement, nous sommes le corps du temple de Saint-Esprit. Et en tant que corps de Christ, en tant qu'Église, nous appartenons au corps de Christ. En tant que nous sommes ensemble les membres dans le corps de Christ, dans les édifices, nous sommes construits dans l'édifice. Appliqué dans notre texte à notre corps individuellement, en 1 Corinthiens 6, 12 à 20, comme motivation pour une vie sainte, pour fuir l'immoralité sexuelle, le fait que l'esprit demeure devrait nous affecter de la façon dont nous utilisons nos corps. Et si nous sommes conscients que l'Esprit Saint habite en nous, si nous avons cette conscience constamment dans notre vie, comment c'est possible que nous pourrons faire certaines choses? Comment c'est possible que nous pourrons aller dans certains lieux? Comment on peut parler d'une certaine façon, de comporter d'une certaine façon? Et ce qui est la vérité, c'est la parole, le déclare que vous êtes le temple de Dieu vivant. L'Esprit Saint habite en vous. L'Esprit nous est donné par Dieu. Et selon sa promesse, en Évangile de Jean, chapitre 7, verset 37 à 39, je vais lire. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, se cria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc Jésus-Christ, quand il était sur cette terre, il a promis que l'Esprit Saint, il viendrait habiter en eux, dans ses disciples. Et un autre aspect, l'Esprit Saint est reçu par ceux qui obéissent à Dieu. En Actes 5, 32, nous sommes témoins de ces choses, de même que l'Esprit Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Et encore à Galates 3, 26 à 27, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et Galates 4, 6, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lesquels crient « Abba Père ». Et la chose que nous avons l'Esprit Saint en nous, qui habite en nous, c'est un gage que Christ il a payé pour notre rédemption. C'est comme si que vous avez payé dans la quittance, vous avez un tampon payé. C'est ce que l'Esprit Saint, il nous a... il signifie dans notre vie. En Éphésiens 1, 13, 14, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et bien que nous pouvons attrister l'Esprit Saint par la façon que nous vivons, par la façon que nous pouvons utiliser, on pense à utiliser notre corps. Éphésiens 4, 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et encore à 2 Corinthiens, l'apôtre Paul, il dit, 1:22, lesquels nous a aussi marqués d'un sceau et mis dans nos cœurs l'art de l'esprit. La bénédiction de ce jour intérieur de l'esprit devrait avoir un impact sur la façon dont nous utilisons notre corps. Si nous sommes certains, si nous avons cette assurance que l'Esprit de Dieu habite en nous, mais c'est inimaginable que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il peut habiter dans notre corps. Et c'était inimaginable aussi pour le peuple d'Israël que Dieu peut un jour descendre pour habiter parmi le peuple. Et deuxièmement, nos corps ont été achetés à un prix. Et nous ne sommes pas à nous-mêmes parce que nous avons été rachetés avec un prix. Nous avons été achetés par le sang de Christ. 1 Pierre 1, 18-19, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Et certainement, nous avons notre éducation à l'école, dans l'université, dans la société, et nous sommes le produit de la société, n'est-ce pas? On ne peut pas être différent que notre société où nous sommes nés et nous sommes élevés. Nous avons reçu une certaine façon, une certaine type d'éducation. Donc, notre pensée est façonnée d'une façon mondaine. Et ici, vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Nous étions enseignés par nos parents, par nos grands-parents, par notre société. Mais sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Sang précieux de Jésus. Mais il faut savoir qu'il n'y avait rien qui pour nous racheter de nos péchés. Il n'y avait aucune monnaie qui pour nous racheter. Il n'y a rien qui peut nous racheter de notre misère, de notre péché. Et seulement le sang précieux de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus-Christ qui peut acheter. Et on peut voir combien nous sommes précieux. Mais bien souvent, nous pensons qu'on est précieux, notre esprit est précieux, mais notre corps, il est précieux pour Dieu. Peut-être nous ne donnons pas autant de valeur parfois pour notre corps. On peut vendre comme cet homme, Olaf Olsen, non? On peut vendre notre corps, mais qu'est-ce que je peux faire avec ce corps? Mais dans certaines parties du monde, les gens, ils peuvent vendre leurs organes. Ils peuvent vendre leur corps. Mais il faut savoir que notre corps, il est précieux pour le Seigneur. Car nous avons été achetés avec un grand prix. Avec le sang précieux de l'agneau de Dieu. Et en 1 Corinthiens 6, 19, 20, ainsi nous recherchons aussi la rédemption du corps, c'est-à-dire la résurrection. Et Dieu a acheté notre corps pour le présent et pour l'avenir. Romains 8, 23, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Il faut remarquer que l'apôtre Paul, encore une fois, il parle de notre corps pour la rédemption. Et si nous allons ressusciter, nous allons ressusciter avec notre corps. Et la parole nous dit que nous ne sommes pas les nôtres. Nous appartenons pas à nous-mêmes. Comme Paul le dit clairement dans notre texte, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Comme Paul le le souligne à maintes reprises ailleurs, en Romains 14, 7 à 8, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Nul de nous vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Il faut réfléchir, n'est-ce pas? Nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. J'espère que c'est la vérité. C'est vrai par rapport à nous. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Et de Corinthiens 5, 15, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et ici, le Seigneur, il est mort pour nous. Pourquoi? Afin qu'ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Tite 2, 14, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute l'iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, et zélé pour les bonnes œuvres. Nous avons été rachetés pour être le peuple spécial du Seigneur. Rachetés par le sang de Christ, nos corps ne sont pas les nôtres. Vraiment, comme le révèle notre texte. Et dernièrement, notre corps doit glorifier Dieu. Si nous ne vivons pas pour nous, si nous vivions pour le Seigneur, et nous devrions glorifier le Seigneur dans notre corps. Parce que personne ne peut voir notre esprit, n'est-ce pas, sauf Dieu. Le monde, il voit notre corps. Mais si vous dites que c'est Jean-Pierre, il a un corps, il a une forme, vous identifiez Jean-Pierre par son corps, pas par son esprit. Donc, nous devrions glorifier le Seigneur dans notre corps. Doit maintenant être des instruments de justice. Romains 6, 12 à 13. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments de l'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Et plus tard, dans le verset 19 de Romains 6, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves de l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Donc, si le Seigneur nous a sanctifiés, il nous a séparés pour vivre une vie sainte pour lui, nous devrions livrer nos membres pour la justice de Dieu, pour la sainteté de Dieu. Ce ne sont plus des instruments d'injustice envers le péché, nos membres, notre corps. Ne plus être esclaves de l'impureté, mais non à l'anarchie. Il est clair qu'il ne doit pas être utilisé pour le péché ou pour soi-même. Si nous vivions pour nous-mêmes, vous savez, nous avons beaucoup d'égoïsme en nous, hein, de ne pas partager nos biens avec les autres. Et ça, c'est le péché. Si nous vivions pour nous-mêmes, nous serons égoïstes. Nous n'allons pas démontrer l'amour de Dieu autour de nous. Et nous devrions glorifier Dieu par notre mode de vie. Romains 12, vous connaissez bien ce passage, Romains 12, le premier deux versets. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous sommes tous rassemblés ici pour offrir un culte à notre Seigneur, à notre Dieu, n'est-ce pas? Nous pensons que nous avons offert un culte. Mais c'est quoi un culte agréable au Seigneur? C'est, Paul dit que je vous exhorte donc faire par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Mais on peut dire que je suis prêt à donner ma vie pour le Seigneur. Mais on pense à mourir. Mais vivre pour le Seigneur, c'est plus dur que mourir. Vivre pour le Seigneur, c'est plus dur que mourir. Parce que nous devrions vivre chaque seconde et chaque minute et chaque jour de notre existence. Vivre de vie sacrificielle, sainte, acceptable pour Dieu. Démontrer que la volonté de Dieu est bonne, acceptable et parfaite. Est-ce que la volonté de Dieu est bonne pour nous, toujours bonne pour nous, et toujours acceptable pour nous? Et dans la façon dont nous vivons, nous glorifions Dieu. Et aussi par la façon que nous mourons. Et Philippiens 1, 20-21, l'apôtre Paul dit, « Selon ma ferme attente et mon espérance que j'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie ou soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Mais l'apôtre Paul, je pense que c'est inné en nous que personne n'a envie de mourir, n'est-ce pas? Qui a envie de mourir? Nous n'avons pas envie de mourir, mais on a envie de vivre. Mais les deux sont bons pour un chrétien. Soit vivre ou mourir, c'est bon pour un chrétien qui veut glorifier Christ dans sa vie ou dans sa mort. Magnifier Dieu dans la façon dont nous mourons avec foi et espérance. Savoir que mourir est un gain pour le chrétien. Il est clair que nos corps doivent glorifier Dieu et pas nous-mêmes. Et posons cette question, est-ce que nos corps glorifient Dieu? J'appartiens au corps de Christ. Le corps de Christ, c'est son Église. Et dans l'Église, il y a beaucoup de problèmes à éviter si on n'a pas ce mot « je ». Mais il y a beaucoup de « je » parfois. « Moi » et « je ». N'est-ce pas? Et on devrait avoir cette pensée que j'appartiens pas à moi-même, j'appartiens au corps de Christ. Je donne entièrement pour le corps de Christ. Que le corps de Christ peut être glorifié par mon attachement à son Église. J'appartiens au corps de Christ, à son Église. Vous n'êtes pas les vôtres. Paul dit à ces chrétiens de Corinthe qu'ils ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. Ce qu'il leur a dit, il le dit à vous et moi aussi. Cela est vrai de toute l'humanité. Aucun homme ne s'appartient à lui-même. Aucun homme n'a le droit de vivre sa propre vie. Même dans notre société, nous sommes liés socialement. Personne ne peut vivre séparé des autres personnes. Vous n'êtes pas le vôtre et est un fondement que nous ne pouvons ignorer car nous risquons péril. Bien que le fait de notre appartenance à autrui soit inhérent à notre existence même, cette appartenance ne vient jamais à son meilleur si ce n'est lorsqu'elle est reconnue et volontairement acceptée par nous-mêmes. Et comment on peut glorifier Christ dans nos corps? Comment on peut glorifier Christ dans son corps? Mais vous savez, dans la parole, il y a beaucoup de les uns des autres. Alors, je notais quelques-uns. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Et dans l'Église de Christ, dans le corps de Christ, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6, 2. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et en Marc 9, 51, le Seigneur dit, « Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. 1 Thessaloniciens 5:15. Romains 16:16. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous. Tout ce qui est en Christ. 1 Pierre 5:14. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et si nous marchons dans la lumière, comme lui-même il est dans la lumière, nous devrions imiter Christ dans notre marche chrétienne. Et si nous imitons chacun, nous imitons Christ dans notre marche chrétienne, nous n'aurons pas le soupçon envers un des autres, mais nous allons tous marcher dans la lumière, comme lui il est dans la lumière. 1 Jean 1,7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et encore Romains 15, 14, « Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire. » On devrait exhorter les uns les autres chaque jour. Chaque jour. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Est-ce que quand nous entrons dans cette salle, chaque fois nous entrons, est-ce que nous avons ce regard que je ne suis pas meilleur que mes frères et sœurs? Je ne suis pas meilleur que les autres. Si nous allons tenir devant la croix de Christ chaque jour, pour reconnaître notre propre position devant Christ. Et nous ne pourrons pas nous élever devant les autres. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et l'édification mutuelle. Est-ce que nous recherchons l'édification mutuelle? Et je ne suis pas là pour promouvoir moi-même, promouvoir ma personne. Et je suis là pour promouvoir la gloire de Dieu, promouvoir son Église, le corps de Christ, l'édification du corps de Christ. Et encore, 1 Pierre 4:10, comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et dans certains milieux chrétiens, des charismatiques, ils disent qu'ils ont reçu le don de l'esprit. Et ils manifestent le don de l'esprit par des choses. Mais quand nous recevons le don de l'esprit, c'est pour mettre en service pour des autres. Ce n'est pas pour notre propre gloire. Glorifier Christ dans votre corps. Et il y a le même sentiment les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez
point sage à vos propres yeux. Et pourquoi nous écoutons pas le conseil aux autres? Pourquoi nous voulons pas écouter le conseil des autres? Et parce que nous n'avons pas cette humilité. Et peut-être nous pensons que nous sommes plus sages que des autres. Et pourquoi nous n'arrivons pas à accepter la parole de Dieu comme elle est prêchée? Parce que nous pensons que nous sommes plus sages à nos propres yeux. Et dernièrement, 1 Corinthiens 12:25, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que le membre ait également soin les uns des autres. Si les membres ils devraient prendre soin les uns les autres, il n'y a pas de possibilité de division dans le corps de Christ. Je vais conclure. Le monde voudrait que nous voyions notre corps comme appartenant à nous-mêmes. Ce que nous sommes enseignés, nos enfants sont enseignés jour et nuit par la télé, par des autres médias, que personne ne doit dire quoi que ce soit, comment tu devrais manger. Si l'anorexie, c'est quelque chose contre le corps que nous avons reçu, et même manger n'importe quoi, manger trop, on peut tomber dans ce péché facilement. Et c'est aussi abuser notre corps que nous avons reçu. Et le monde, il nous apprend que notre corps, il nous appartient. Tu peux habiller comme tu veux. Tu devrais plaire à toi-même. Et nous recevons un jour et nuit cet enseignement. Mais ce que la parole nous dit, que nous appartenez pas à vous-même. Vous appartenez à Christ. Comme appartenant à nous-mêmes, et personne n'a le droit de nous dire comment l'utiliser. Comme un instrument de plaisir, notre corps est enseigné comme un instrument de plaisir à utiliser à notre guise. Et le monde, il nous enseigne que, voilà, nous vivons, mangeons, buvons et mourons un jour. C'est comme ça que nous allons prendre le maximum plaisir de notre corps. Comme quelque chose à jeter à la mort, pas besoin de plus. Mais nous vivons et mourons, et c'est fini. Mais Dieu voudrait que nous voyions notre corps comme un temple du Saint-Esprit. Comme appartenant à Dieu, acheté à un prix précieux. Comme un instrument par lequel nous devons le glorifier. Comme ceux qui sera racheté lorsqu'il ressuscitera et recevra l'immortalité comme corps spirituel pour l'âme. En effet, notre corps sont des dons de Dieu dont nous devons être sages intendants. Utilisons notre corps d'une manière qui glorifie Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre vie qui appartient à Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, cet livre d'instruction qui nous instruit comment vivre dans ce monde. Seigneur, nous sommes constamment bombardés par des vaines paroles, par des vaines philosophies de ce monde. Seigneur, par des vaines pensées de ce monde, Seigneur. Et Seigneur, qui nous enseigne comment vivre avec notre corps, comment estimer notre corps. Mais Seigneur, ta parole nous dit que nous avons été rachetés avec un grand prix. Pas par des choses périssables, mais par le précieux sang de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions pour ce corps, Seigneur, que tu as créé par ta propre main au début. Et tu as soufflé ta vie en nous. Merci parce que tu habites dans notre dans notre corps, Seigneur, et tu nous as fait ton temple. Seigneur, aide-nous à être conscients de ce fait que l'Esprit Saint, il habite en nous constamment. Seigneur, et garde notre vie saint. Seigneur, ta parole nous appelle pour être saint, car celui qui nous a appelés est saint. Seigneur, nous étions dans le monde de péché, mais tu nous as fait sortir de ce monde de péché, et tu nous as séparés, tu nous as lavés par ton sang précieux. Tu nous as purifiés, Seigneur, pour vivre pour toi une vie pure. Seigneur, même maintenant, aide-nous à avoir une bonne pensée vers ton Église. Seigneur, puisque on peut travailler pour l'édification de ton corps. Seigneur, être membre de ton corps, entièrement, Seigneur, corps, âme et esprit. Que tu bénis ton Église, Seigneur, tu bénis chacun présent ici. Aide-nous à marcher dans la lumière, comme tu es dans la lumière, et tout en pleine communion avec toi. Nous prions tout cela dans le bon nom de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, et pour ta seule gloire. Amen.